Alors, les lignes de conduite qui concernent les débuts de cure. D'abord, il y a la S0. Et qu'est-ce qui se passe dans la S0? Souvent, à la S0, avant même que tu vois ton psychanalyste ou ta psychanalyste, tu commences à lui parler intérieurement. Et tes rêves nocturnes prennent une tonalité orientée. Alors, la séance zéro, elle existe. C'est ce qui se passe à l'intérieur du patient dès qu'il a pris rendez-vous. C'est dès qu'il a pris rendez-vous, il commence à se parler intérieurement. D'où l'intérêt des deux questions. Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre rendez-vous? Et est-ce que vous avez eu un rêve frappant avant le premier rendez-vous? Souvent, c'est vachement intéressant. La S1, c'est un moment délicat parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà la demande de niveau 1, axée sur les manifestations problématiques dans l'actuel, qui donne la motivation consciente. Donc, il s'agit à la fois de saisir ce qui fait venir la personne dans son vécu actuel. On a des problèmes sexuels avec mon mari, ça devient de pire en pire, on s'engueule tout le temps. Bon, ça, c'est la demande de premier niveau, la demande actuelle, qui est axée sur les manifestations problématiques dans l'actuel et qui donne la motivation consciente. C'est pour ça que la personne vient. Elle ne vient pas pour régler les problèmes de sa petite enfance avec sa mère au moment où elle a été mal nourrie dans les 3 premiers mois, etc. Elle vient avec une motivation consciente et on ne peut pas éviter de tenir compte de cette demande parce que c'est ce qui va permettre de continuer. Donc ça, c'est le niveau 1. Mais malgré tout, il faut quand même s'en faire sentir à la personne que tout ça, ça peut être lesté d'un autre niveau. Donc, la demande de niveau 2. Niveau 1, c'est l'actuel, auquel il va falloir qu'on fasse face quand même tout de suite en tant que thérapeute. Et niveau 2, c'est les trames inconscientes qui sont à l'origine du problème actuel. Donc, il y a deux erreurs possibles pour le psy. Soit ne s'occuper que du niveau 1. On va dire, oui, c'est des problèmes de communication, qu'est-ce qui se passe pour vous? On va essayer de recadrer un peu la manière dont la personne voit le problème avec son mari. Et finalement, au bout de 3-4 séances, eh ben, il y aura eu un effet de thérapie brève, donc ça ira bien, ça s'arrêtera là, ça lui suffira. Bon, ça c'est une première erreur, de s'occuper que du niveau 1. Mais une deuxième erreur, ce serait de n'écouter que le niveau 2 et de se mettre d'emblée dans une attitude analytique, généralement vécue comme une violence. Je l'ai vu 4 fois, il m'a presque rien dit à part quelques remarques sur mon enfance, donc peut-être que... intéressant quoi. Donc la personne peut très bien sentir qu'elle n'est pas entendue dans sa souffrance actuelle et que du coup il lui manque quelque chose et elle arrête à ce moment-là. Donc ça va être un moment très important pour jouer sur l'alliance de travail des premiers temps. C'est dans ce premier temps, dans cette première séance et dans les 3 ou 4 premières séances qu'il s'agit de jouer sur les 2 niveaux, c'est-à-dire d'être en lien avec la souffrance de la patiente réelle. La reformulation de ce qu'elle vit, l'empathie, la sympathie, la compréhension, tout ce qu'on disait tout à l'heure, des interventions de soutien, des connotations positives, des recadrages éventuellement. Bon, toutes choses qui sont des techniques de thérapie brève, mais qui sont pas à trop utiliser. C'est juste pour faire comprendre qu'on a compris le problème actuel, mais qu'on va pas négliger le travail de mise en lien de la problématique actuelle avec les épisodes précédents de son histoire. Et donc, ce qui est très intéressant pour la personne, c'est de s'apercevoir que ce qu'elle vit maintenant, eh bien, au fond, ça ressemble à ce qu'elle avait vécu quand elle était adolescente, ou ça ressemble à qu'elle avait vécu quand elle avait eu un déménagement à 6 ou 7 ans, et finalement qu'il y a des espèces de similitudes de vécu entre différents épisodes de son histoire. Ça, c'est une intervention simple qu'on peut faire, qui ne va pas chercher très loin, de voir qu'il y a eu d'autres fois des vécus similaires. Parce que d'un seul coup, malgré tout, ça permet d'apercevoir que ce qui semblait être le problème, dans lequel la personne avait le nez dedans, eh ben finalement, c'est peut-être une ligne générale présente dans sa vie et dans son histoire. J'ai des crises de panique, je viens, je sais pas pourquoi j'ai ces crises de panique, ça fait 2 fois que je me suis retrouvé au SAMU, je viens pour ça. Et puis, elle s'aperçoit que c'est vrai, elle se rappelle qu'adolescente, elle était extrêmement angoissée, qu'elle n'osait pas parler pendant ses cours, etc. Puis elle va se rappeler que quand elle était petite, sa sœur aînée était toujours plus forte qu'elle et qu'elle-même était toujours un peu inquiète. Si on peut montrer à la personne, ah ben tiens, dites donc, ça ressemble un peu. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose là maintenant qui vous angoisse, mais qui déjà il y a eu ça et ça et ça dans votre histoire. Eh ben si on peut faire ça, ça présente deux intérêts. Premièrement, ça élargit le problème. Et quelque part, ça apaise un peu le fait que ce n'est pas que maintenant, que c'est quelque chose de plus large. Malgré tout, même si c'est un peu inquiétant, c'est aussi apaisant parce que ça prend du sens. Et deuxièmement, ça prépare l'idée que ben, c'est bien joli de travailler sur les crises de panique actuelles, mais si ça se trouve, c'est une occasion aussi de régler quelque chose de plus profond qui était là depuis longtemps. Donc, ce premier temps est assez délicat et ça nécessite d'une part d'être en lien avec la souffrance actuelle du patient et de faire quelque chose pour cette souffrance actuelle, mais d'autre part de préparer l'idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas sans rapport avec des éléments de l'histoire. Et donc, on aura besoin un peu des éléments d'anamnèse. Bon, l'anamnèse, je ne vais pas vous en faire des tonnes là-dessus. Pour moi, je pense qu'il faut la faire rapidement, parce que sinon, on navigue un peu trop à vue. Mais il faut que ça soit... Il y a deux types d'anamnèse différents. Il y a l'anamnèse historique, point par point, qui est celle qui intéresse le patient, parce qu'il va vous raconter toute son histoire, détail par détail. Mais en fait, elle est reconstruite. Et elle ne permettra pas une mise en lien facile, parce que ce serait un peu une interprétation sauvage. Donc, la personne va vous raconter son histoire, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ok, bon, d'accord. Mais c'est truffé de réorganisation, de mécanismes de défense, de façon de dire les choses. Et en réalité, vous avez affaire non pas à l'histoire de la personne, mais à la reconstruction de l'histoire de la personne à travers sa vision actuelle. Donc ça, c'est l'anamnèse historique, qui est relativement peu intéressante, même si bon, c'est toujours... C'est une histoire, quoi. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'anamnèse structurelle. C'est moins susceptible d'être biaisé par la reconstruction et ça nous intéresse plus. Par exemple, la personne sait qu'elle a dû faire de la couveuse à la naissance, qu'elle a été hospitalisée à 3 mois, puis à 4 ans, qu'elle était précédée par un enfant mort, etc. Donc ça, c'est des faits. Et puis ce qu'elle raconte, c'est que son enfance a été merveilleuse avec une mère hyper attentive, avec qui elle reste d'ailleurs dans un lien très étroit, etc. Donc, il y a deux choses différentes. Et les faits, c'est souvent intéressant pour essayer de se faire une construction, un premier début. Par exemple, la fratrie, combien il y avait de frères et sœurs, quelle différence d'âge les séparait, ça, c'est des faits. Les événements, est-ce qu'il y a eu des déménagements? Comment s'est passée la naissance? Est-ce qu'il y a eu des hospitalisations? La structure de la maison, est-ce que la chambre était loin de la chambre des parents ou pas? Ça, c'est des faits, et la personne les sait, et elle peut vous donner des éléments concrets sur son histoire. Ah ben oui, j'ai été hospitalisé à tel âge, mais bon, c'était pas grave, je suis resté un mois à l'hôpital, sous une tente d'oxygène, mais à part ça, mon enfance était super, et d'ailleurs, ma mère s'est extrêmement occupée de moi, était vraiment très attentive. Bon, ben oui, la mère était très attentive, mais j'ai été hospitalisé pendant un mois sous une tente à oxygène et on sait qu'il y a eu une rupture du lien extrêmement forte qui va avoir créé un trou dans l'histoire du développement. Et ce trou, c'est les faits qui nous le donnent. C'est pas ce que raconte la personne souvent, c'est les faits, la structure. Si j'ai été suivi par une petite sœur qui est née 18 mois après moi, ça veut dire que quand j'avais 9 mois, ma mère était enceinte. Ça veut dire que quand j'avais 1 an, ben, elle avait déjà la petite qui prenait son esprit. Mais je l'adore, ma sœur, on s'entend vachement bien, on est comme les deux doigts de la main, etc. L'histoire, on m'aime sans ambivalence, mon enfance a été bonne. La structure, peur, rage, haine, ambivalence maternelle compensée. Tu vois, il y a des choses différentes, il y a ce qui a raconté, il y a ce qui a peut-être été vécu. C'est donc intéressant de ne pas trop vous laisser séduire uniquement par ce que raconte la personne à propos de son histoire. Vous pensez que notre histoire à tous, c'est un peu comme les livres d'histoire en URSS. Il y a des parties qui ont disparu, il y a des personnes qui ont été rajoutées sur les photos. Tandis que l'écart d'âge entre les frères et sœurs, ça peut pas être manipulé. Elle est née à 18 mois, etc. Donc c'est intéressant ces éléments concrets parce que s'il y a eu un temps de couveuse à la naissance, par exemple, ben c'est un point fondamental. Si la personne à 4 ans a été en sanatorium, c'est un point fondamental. Conclusion, les 4 premières séances, c'est une sorte de danse dans laquelle chacun des éléments trouve sa place, la problématique actuelle et la façon de la gérer, et l'approche progressive du niveau 2, avec les éléments d'anamnèse structurelle, avec le rêve nocturne éventuel. Mais on n'évoque pas la perspective d'une cure analytique. jusqu'à la séance 4, on ne sait pas encore si nous, on s'engagera et si la personne s'engagera. On ne commence pas à dire, quand on fera un travail plus long, non, non, on est juste à, on cherche ensemble. Peut-être on va s'engager, peut-être vous, peut-être moi, c'est pas sûr, on verra. Il y a un premier temps, mais ce premier temps, même si on n'évoque pas du tout le fait qu'il y a d'autres niveaux dans l'histoire, il est quand même bon qu'on fasse les deux choses, niveau 1, niveau 2. Et ensuite, la séance 4, 5, 6, on fait le point pour savoir quelle est la motivation du patient et la nôtre à continuer. Et là, on va conclure le contrat parce qu'on va passer à un autre genre de travail. Autant les premières séances étaient sur une modalité face à face, soutien du moi, recadrage, etc. Autant là, si on décide de faire un travail analytique, il va falloir mettre en place les paramètres qui vont permettre un travail analytique. Donc, en résumé, l'arrêt en séance 4 pourra provenir soit que la personne ne s'est pas sentie entendue et accompagnée, soit qu'elle s'est sentie et entendue qu'au niveau 1, et devant l'apaisement de la problématique, eh ben ça, elle voit pas l'intérêt de poursuivre. Par contre, si la danse a été correcte, ben la personne instaure une alliance de travail et un transfert positif de base, et elle sent l'intérêt de cette opportunité qu'est la crise pour peut-être aller plus loin dans son histoire. Donc, on va passer un contrat. Il ne s'agit pas forcément de le dire comme un contrat. D'ailleurs, c'est plutôt une sorte de règle du jeu si on veut que ça soit efficace. Et c'est la réalité, c'est un jeu, hein, quelque part, c'est un, comme le dit Winnicott. Ces règles du jeu, elles sont bien précises et elles permettent de favoriser ce qui permettra l'analyse. La solidité du cadre, les facteurs qui favorisent la régression, les éléments qui amèneront ultérieurement la sortie de la dépendance. En somme, ce qui va favoriser la névrose de transfert, ce qui va favoriser la sortie de la névrose de transfert. Et si vous n'aimez pas le terme de névrose de transfert, ce qui va favoriser l'investissement fort sur l'analyse et ce qui va favoriser la sortie de cet investissement fort ultérieurement. Donc, on va parler de la régularité des séances, du fait qu'une séance au thé est due, ce qui évite les jeux avec « je viens pas », tâcher de faire coïncider les vacances, pas d'arrêt brusque, 4 séances avant d'arrêter, parce qu'il faut différencier quand même l'arrêt fuite et l'arrêt vraiment terminal. Le paiement en espèces, parce que ça paraît être un truc, bien sûr, on va dire, oh, c'est pour masquer le fric qu'on gagne, pas du tout. Enfin, pas du tout. Ça, c'est une des choses qui permet la sortie de la névrose de transfert, parce que si la cure a bien marché, il y a comme une sorte de dette psychologique que peut ressentir le patient vis-à-vis de cet analyste qu'il a si bien accompagné, de voir que ça a été tellement positif, tellement bien. Eh bien, le fait d'avoir payé en espèces chaque fois d'une façon visible, parce qu'en espèces, on voit qu'on paye, ça change quelque chose. Ça permet à un moment donné de se dire plus facilement, mais après tout, bon, il a fait son boulot, c'était son boulot, maintenant je lui dois rien, ou quelque chose comme ça, quoi. Même si on garde un truc très positif. Donc, paiement en espèces, setting divan. Pourquoi divan? Parce que, à mon avis, c'est nécessaire pour que la régression correcte se fasse. Hein, parce que si on se voit en face à face, il y a plein d'interactions qui vont être problématiques. La personne va peut-être se baser sur ce qu'elle croit voir dans mon visage ou ce qu'elle voit dans mon visage et vice-versa, etc. Tandis que là, on ne se voit plus. Elle peut être plus avec elle-même et moi plus avec moi-même. Et donc, on propose le setting divan qui permet d'être plus libre pour être seul avec l'autre, hein, quelque part. Et pour que la régression correcte se fasse, parce que étendue, en divan, se laissant aller, on peut plus facilement laisser venir des choses de l'enfance. Et puis, on évoque le fait que le rêve éveillé sera le pivot de la cure. Donc, du coup, à ce moment-là, le transfert négatif est relativement faible du fait qu'il y a eu cette présence bienveillante et que le moi adulte du patient a conclu un accord sur les différents points, quoi, hein. Après, il y a de 5 à 10. Alors donc, l'instauration du setting divan comporte deux effets majeurs. Jusqu'à présent, jusqu'à la séance divan, le transfert négatif, il était à minima parce qu'il était contenu par le face-à-face et par l'alliance de travail sur les situations du moment. Donc, il n'y avait pas trop de transfert négatif. Mais dès que la personne va se mettre en divan, il va y avoir une évolution vers le transfert négatif. Et tant mieux! Parce que si le négatif ne peut pas arriver dans la cure, comment est-ce qu'il pourrait être traité? Donc le transfert négatif, c'est la pierre de touche des analyses, c'est même le problème le plus fondamental. Comme je vous l'ai dit, c'est ce qui peut faire capoter une analyse, mais en même temps, sans transfert négatif, on ne peut pas travailler sur le négatif. Donc je dirais, il est nécessaire qu'il y ait du transfert négatif, et il est nécessaire que ce transfert négatif ne sabote pas la cure. Eh bien du coup, dès l'instauration du setting divan, il va y avoir deux choses. D'une part, c'est un changement dans le cadre, puisqu'il y a la perte du face-à-face et une position différente, étendue, qui induit plein d'éléments régressifs. Être allongé, immobile, sous le regard de l'autre, c'est pas rien. Or, tout changement dans le cadre, vous le savez bien, suscite des choses violentes à l'intérieur du patient, même s'il n'en est pas du tout conscient. Donc du coup, dès que le setting divan est installé, il s'agit de proposer à la personne « Qu'est-ce que ça vous fait ce changement? Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui vous vient comme image, comme impression ?» Et si elle dit « Non, non, rien de spécial, c'est très bien », ben, on ne lâche pas le morceau parce qu'on sait que changement de cadre égale quelque chose de profond qui est touché. Donc on essaye de laisser surgir ce qui a besoin de surgir. Et puis en plus, non seulement il s'agit d'un changement dans le cadre, du fait de la perte du face-à-face, mais il s'agit aussi d'un changement qui induit la régression. Être allongé, immobile, sous le regard de l'autre, ça amène souvent des vécus négatifs. Donc, il faudra accompagner l'émergence du transfert négatif. Surtout pas chercher à empêcher, au contraire. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui va venir toucher au cadre, il y a un travail à faire sur le réveil du négatif que ça suscite. Par exemple, plus tard, quand il y aura des vacances, il y aura un travail à faire sur le réveil de l'abandonnisme ou sur des choses comme ça. Et donc, durant le premier temps, durant cette étape, jusqu'à la séance 10, il faut faire deux choses. Accompagner l'émergence du transfert négatif. Autrement dit, favoriser le fait que la personne puisse commencer à laisser venir des choses qui vont être moins sympas qu'au départ, qui vont être plus proches de la douleur, du malaise, de la tension, de l'anxiété, des choses comme ça. Ça va se faire naturellement, mais favoriser ça, ça consiste à être prêt à l'accueillir et à l'accompagner. Et favoriser en même temps la dérivation de ce transfert négatif sur le troisième pôle qu'est le rêve éveillé. Si le rêve éveillé est clairement mis en place comme un axe de la cure, alors du coup, on va pouvoir instaurer ce dédoublement du transfert qui va permettre que la personne dira des choses à son analyste, mais aussi qu'elle va en dire d'autres à l'intérieur du rêve éveillé. Donc, ça rejoint ce que je vous ai dit à propos des trois pôles. Et l'instauration de cette étape est délicate puisqu'il y a un nouveau cadre, il y a la pratique du rêve éveillé et le dédoublement du transfert. Mais ça va permettre, si c'est fait correctement, que le transfert négatif trouve sa place légitime sans venir empêcher la cure. Et une rupture à la séance 10 s'effectuera si le transfert négatif n'a pas sa place, n'a pas trouvé sa place. Exemple, si l'analyste a voulu rester sur le registre positif. Ce que je vois quelquefois en supervision, qui est un grand classique, ça se passait très bien, et brusquement elle a arrêté à la séance 10, ben, je ne sais pas pourquoi. Ben, en fait, parce qu'il y a eu tout le négatif qui n'avait pas pu commencer à émerger. C'est là où on a à se positionner différemment d'une analyse classique, parce que nous, on a cette analyse à médiation, la médiation du rêve éveillé. Donc, c'est important pour le travail de l'analyste rêve éveillé d'instaurer ce système. Donc, les erreurs qui ont pu amener la rupture à la séance 10 sont vouloir évacuer le négatif. S'il y a eu un début de transfert négatif qui s'est installé à partir du setting divan, et que la personne a commencé à dire « Oh, mais je ne sais pas comment vous me regardez, mais si, mais ça », et que l'analyste a voulu rester sur le registre positif, le négatif ne peut pas se déposer et il se décharge en un passage à l'acte. C'est classique, hein, en supervision. L'analyste disait « C'est super, cette personne est vachement bien, elle symbolise vachement bien, moi j'ai rien à faire, on est dans une très bonne relation ». Et à la séance 10, tac, brusquement, la personne arrête. Non, ça va, ça suffit. Ou alors, j'ai trop de travail ces temps-ci pour pouvoir venir. Ou j'ai pas assez d'argent. ou ma mère a besoin que j'aille la voir très souvent, ça ne me permet pas de venir facilement, etc., etc. Pourquoi ? Parce que le transfert négatif n'ayant pas pu se déposer quelque part, s'est accumulé et ensuite a été déchargé en un passage à l'acte. Erreur de l'analyste. De même, pareil, s'il n'a pas pu installer correctement le rêve éveillé, le transfert n'a pas pu se dédoubler, etc., etc. Mais il y a un cas un peu particulier, c'est quand il y a une espèce de collusion analyste-patient pour éviter le négatif. Ça n'amène pas une rupture, ils sont bien contents tous les deux, et ça amène une cure relativement longue et très inefficace. Les deux sont bien contents de se voir, ça se passe très bien, mais il n'y a pas beaucoup de rêves éveillés, même très peu. Mais bon, c'est pas grave. Les rêves éveillés, quand ils sont là, ils sont défensifs, gentils, construits. Et le transfert négatif se joue ailleurs, par exemple sur le conjoint ou d'autres, etc. Ce qui fait que là, on trouve une sorte de gentille petite cure qui semble tourner bien, et en fait, il n'y a rien qui change, et même c'est de pire en pire à l'extérieur. Là aussi, c'est une erreur de l'analyste. Il est trop content de rentrer dans le registre du transfert positif, et finalement, il est d'accord avec le mécanisme de défense du patient, pour ne pas voir le négatif, et le patient répond aux besoins de l'analyste en évacuant le transfert négatif de la cure et en restant sur un mode superficiel défensif. Ça peut donner une cure très longue et totalement inefficace. Mais en fait, c'est un cas rare, hein. Le cas le plus fréquent, c'est la rupture à la séance 10, parce que le transfert négatif n'a pas pu trouver sa place. Ce qui ne veut pas dire que la rupture va être négative. La personne va dire « Oh, mais c'était vachement bien, les 10 premières séances, ça me suffit largement, etc. » Alors, je vais vous donner un exemple de cas. Je reçois une personne qui est boulimique. Boule vom, elle se fait vomir. Elle a un sentiment d'une vie véritablement vide. Elle se sent vraiment mal. Et pourtant, elle a tout pour être heureuse. Elle a un joli mari, elle a un bon métier, elle a de jolis enfants. Son histoire d'enfance, super. C'était très bien, il y avait une grande famille, 10 enfants. Tous extrêmement liés, il y avait une très bonne ambiance. Elle-même, elle était la deuxième, ou la première, je me rappelle plus, enfin dans les premiers, et on l'appelait la petite étoile. Donc il y avait rien de négatif, c'était merveilleux. Vraiment, elle voit pas d'où ça pourrait venir. Voilà, un bel exemple d'histoire URSS. Donc je commence des rêves éveillés avec elle, et au troisième rêve éveillé, donc rapidement, hein, elle fait un rêve éveillé où elle se trouve dans un espèce de souterrain glauque, et puis il y a une énorme araignée qui arrive d'un côté, qui commence à lui arracher un bras et à lui dévorer le bras. Et pendant qu'elle se fait dévorer le bras, derrière, il arrive un énorme rat qui commence à lui dévorer l'autre bras. Un rêve éveillé horrible. Donc voilà, vous avez d'un côté un discours qui est hyper positif, et d'un autre côté un rêve éveillé qui amène plein pot la problématique douloureuse. Si elle avait fait ce genre de rêve en rêve nocturne, elle se serait réveillée, parce que quand on fait un cauchemar, on se réveille. Là, par contre, on peut aller jusqu'au bout, on peut rester dedans. Or, pour cette patiente, le rêve éveillé raconte d'emblée deux imagos parentales dévorantes, ce qui correspond à la réalité sous-jacente. En effet, étant dans les premières avec beaucoup de frères et sœurs, elle a été extrêmement utilisée par les parents, pour être celle qui s'occupait d'eux, et elle n'a eu que très peu de place par elle-même. Dans la semaine qui a suivi ce rêve éveillé, il lui revient un souvenir. Vous voyez, dans la semaine qui suit le rêve éveillé, il lui revient un souvenir. Vers 4 ans, elle a eu une période où elle hurlait, où elle pleurait toute la journée, et on ne savait pas pourquoi. Elle s'est fait engueuler vraiment vigoureusement par les parents, et ça s'est terminé ainsi. Autrement dit, le rêve éveillé commence à amener l'autre histoire, et cette expérience du rêve éveillé ayant drainé une partie des affects prépare la possibilité de retrouver certains éléments qui étaient interdits de reconnaissance du fait des mécanismes de défense. Si j'avais pas mis en place avec elle la possibilité de permettre tout de suite l'expression de quelque chose d'autre sur un autre support qui est le rêve éveillé, eh bien, probablement qu'on serait resté dans un truc très positif, peut-être quelques rêves nocturnes, et encore, elle n'en avait pas, elle n'en ramenait pas, puis voilà. Finalement, le transfert négatif aurait peut-être mis un temps interminable avant de pouvoir apparaître et travailler. Ou alors, au bout d'un certain temps, la patiente aurait dit « Oh ben, de toute façon, cette cure, ça ne me sert à rien. » Donc l'idée, c'est que le rêve éveillé va pouvoir drainer ce qui a besoin d'être vu et va pouvoir le mettre en forme rapidement. Et à partir du moment où il est mis en forme rapidement, eh bien, vous avez les trois pôles. Et on est côte à côte, analyste et patient, face à ce troisième pôle qui est le réveillé. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il amène ça? Et c'est très intéressant parce que l'analyste n'est pas celui qui va donner la nécessité d'aller vers le transfert négatif ou vers le traumatisme. Il est celui qui va accompagner la personne pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se rejoue là dans le rêve éveillé. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rêve éveillé doit être clairement différencié du travail métaphorique qu'on fera après autour du rêve éveillé. Et tous ces paramètres doivent être instaurés par l'analyste dans les premières séances, dans les 10 premières séances. Mais vous comprenez la logique du truc. La personne a bien établi le tripôle, et elle a commencé à faire des rêves éveillés, il y a eu des trucs négatifs qui ont pu se dire, et elle n'arrête pas la séance 10, elle continue. Alors ensuite, de la séance 10 à la séance 16. Pourquoi il y aurait un arrêt à la séance 16? Ben, c'est qu'à la séance 16, avec l'avancée de la cure vers le négatif et le douloureux, le patient découvre que venant pour aller mieux, il va d'abord entrer dans ce qui le fait aller plus mal. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, il commence à se dire « Punaise, mais dans quoi je me suis embarqué ? Je viens pour aller mieux et je découvre de plus en plus des choses violentes, douloureuses, troublantes, ce rat, cette araignée, etc. » Donc il y a quelque chose un peu comme si « Vers quoi ça m'amène ? Quoi, je vais aller plus mal si ça continue ?» Nous, de notre point de vue, c'est très bien. Elle peut se permettre d'aller vers ce qui est déstabilisant et souffrant. Mais on pourrait dire qu'à la séance 16, c'est le moment où la personne rechoisit la cure analytique rêve éveillé. En séance 4-5, elle avait choisi par alliance positive avec l'espoir de résolution des choses, mais avec l'illusion que ça allait être facile. En séance 16, les deux éléments précédents qui sont l'alliance et l'espoir sont toujours là, mais maintenant il s'agit de favoriser un nouveau choix plus lucide, qui peut se dire ainsi, je vais aller vers ce qui me fait mal et que je dois traiter. Donc il y a comme une sorte de nouveau point à faire, presque un deuxième contrat, sans que ça soit formalisé comme contrat. On peut en reparler, oui c'est vrai, c'est vers ça que vous allez maintenant. Il n'est pas rare de devoir faire un nouveau point brièvement à cette étape. Et ensuite la cure est sur ses rails. Les éléments fondamentaux vont pouvoir se développer, se déployer, le jeu transféro-contre-transférentiel, le rêve éveillé et le travail pour s'approcher des plis inconscients problématiques, des débuts de changement avec des rêves éveillés restaurateurs et l'introjection d'une imago parentale bonne. Et puis, après environ une année, vers S50, mais parfois plus tôt, s'il y a eu des ruptures dues à des vacances, il y a un nouveau risque d'arrêt. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien des choses qui ont changé et la personne va mieux dans sa vie réelle, mais les enjeux sous-jacents n'ont pas été traités. Après avoir nettoyé la périphérie, on s'approche du noyau le plus dur. Là aussi, il y a un re-choix à faire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 critères pour la fin de cure vraie, pas une fin de cure arrêtée précocement ou par erreur. L'évolution des rêves éveillés, des rêves nocturnes, du transfert et des symptômes. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on va revoir ensemble les prochaines fois.